Bonsoir. En effet, je suis à Orange aujourd'hui. Mon invité est le poète Olivier Bastide, que je remercie de m'accueillir ici chez lui. Et les mots d'azur, c'est parti! Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Pour vous présenter Olivier, je commencerai par les racines. Vous êtes né à Carpentras, dans le Vaucluse, et vous y vivez toujours. Enfin, pas à Carpentras, mais dans le Vaucluse. Vous avez exercé le métier de professeur des écoles. Vous êtes publié depuis le tout début des années 2000 en revue. Alors par exemple, Phénix, Verso, Décharge, pour n'en citer que trois. Vous êtes publié chez des éditeurs comme Les Solissandristes, Carder, La Porte, les éditions de l'Atlantique et plus récemment, les éditions Tarmac et les éditions Gros Texte. Vous êtes aussi photographe. Vous avez collaboré au spectacle chorégraphique de votre compagne, la danseuse et chorégraphe Elena Berti. Et puis, vous faites partie de ce collectif de poètes autour de Dominique Sorante, le Scriptorium à Marseille. Est-ce que juste là, je n'ai pas dit de bêtises ?
Alors, pas de bêtises dites, mais toujours des compléments nécessaires. Alors, dans les compléments nécessaires, un berceau natal qui effectivement va être Carpentras dans le Vaucluse, mais avec les deux authentiques berceaux qui sont juste en retrait de cette génération, un bout d'Ardèche, un confin d'Ardèche sous les châtaigniers, c'est d'un côté, et le Minervois, au lieu de catharisme, avec un fantastique bûcher en 1210. Donc tout ça m'a quand même énormément habité. D'un côté les vignes, de l'autre les châtaigniers, pour arriver naître à Carpentras. Ça, c'est un côté. Et le côté poésie, effectivement. Poésie depuis très 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 longtemps, bien avant, mais qui n'était que pour moi, étant grand timide. Et puis des aspects familiaux, cordiaux, amicaux, m'ont fait côtoyer assez régulièrement Henri Trois-Mois, des Solissandristes, Revue Soleil et Cendre, et un jour, après quelques années de rencontres tout à fait cordiales, amicales, je me suis dit qu'à l'appel à texte, j'allais envoyer des textes en ne disant pas que c'était moi, mais en ne me masquant pas non plus, en disant Olivier Bastide, tout bêtement. Et quelques temps après, on m'a demandé, mais Olivier, on a reçu des textes d'un certain Olivier Bastide, on va les mettre dans le numéro là, mais est-ce que cet Olivier Bastide, c'est toi ? C'était moi. Donc à partir de là, je me suis découvert, j'ai envoyé un petit peu à droite et à gauche, en étant beaucoup plus sérieux sur la finalisation de mon écriture. Et voilà.
Alors on va poursuivre cet entretien, mais avant d'aller plus avant, il y a les fameuses infos à vous délivrer, et qui concernent les activités de l'association Les Mots d'Azur. 13 décembre à 19h, au château de Mossartout, allez écouter le duo Arcturus, qui donnera à entendre ces textes. Et revenons à mon invité, Olivier Bastide. Olivier, vous rédigez un blog nommé Dérivation, que nos auditeurs peuvent, s'ils en ont la curiosité, visiter. Blog, hélas interrompu après un incident technique et qui vous a fait perdre toute une série de réflexions sur la poésie, écrites par une vingtaine de poètes eux-mêmes, une série nommée Idées sur la poésie. Alors l'enchaînement est tout trouvé, Olivier. Quelle est votre idée de la poésie ?
Alors, voilà la question embêtante, parce que je me suis toujours dit qu'un gugus ou une gugussette, un jour, me reposerait la question, de façon inverse. Et bien évidemment, j'ai refusé de m'y préparer, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir comment on réagit, pas de réfléchir, la réflexion, c'est par ailleurs. Mon idée de la poésie, elle se fabrique. Elle est fondamentalement un acte d'écriture. Je ne sais pas si l'écriture est réellement un acte, une véritable action, mais en tous les cas, à mon sens, elle ne doit pas être éloignée d'idées authentiques, d'idées fondées sur le réel. D'autres disaient que tout est politique. Oui, eh bien, tout est politique, tout peut être poétique, donc on peut mêler tout le poétique et le politique avec toutes les éthiques philosophiques que l'on veut. Si on ne le fait pas, eh bien, on reste dans les fleurettes, les bleuettes, et ça ne vaut pas tripette.
Bon, merci pour les rimes.
Oh, on peut les faire aussi, on peut les faire les rimes également, on sait les faire. Je suis toujours professeur des écoles. Et dernièrement, suite à une réunion de rentrée, c'est tout frais ça, réunion de rentrée avec des parents, j'ai été amené à parler un petit peu de poésie. Bon, quelques temps plus tard, j'ai reçu un courrier de parents sur une demande dont il n'est pas utile de parler là, mais qui était et assez longue, pleine d'images, et écrite systématiquement, cette missive, avec des vers rimés. J'ai répondu de manière plus courte, mais également en rime, je sais les faire.
Alors on va passer à vos textes, à vos livres. Vous avez écrit « Moi, Vernon Sullivan ». Donc, c'est que vous êtes certainement un admirateur de Boris Vian. Ce Vernon Sullivan était un soi-disant auteur américain inventé par Boris Vian, autant dire un hétéronyme de Boris Vian. Alors j'aimerais que vous lisiez un extrait pour nos auditeurs, et puis nous nous pencherons sur ce texte ensuite.
Alors, juste dire une petite chose de ce « Moi, Vernon Sullivan ». C'est à l'invitation de Monique Martha pour un printemps des poètes dans le village de Sosse. Le thème aurait dû être dans les environs, finalement, de Boris Vian. Bon, il se trouvait que, par hasard, je venais de me mettre à compléter certaines lectures de Boris Vian, notamment les romans écrits sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Et j'ai commis, parce que c'est grave de faire ça, j'ai commis un texte par roman intitulé « Moi, Vernon Sullivan ». Ah oui, grande prétention. Parce que ne peuvent suffire quelques sentences propres d'hommes bien élevés, parce que votre laideur s'insinuerait encore par-delà votre mort dans les plis de nos vies, parce qu'à ce compte-là, il est de mon devoir, il est de mon honneur, une dernière fois, dans votre dernier lieu, de souiller votre nom avant qu'il soit mémoire, afin d'en empêcher toute consécration. Être votre assassin d'âme, sachez-le, j'irai cracher sur vos tombes. Car vous devez savoir que vous êtes en tort, que toute votre vie, toutes vos conceptions, vos regards sur les uns, sur les autres, que vos goûts, vos dégoûts, votre idée du beau, du bon, du bien, est entachée à l'origine par une tare indélébile qui tue dans l'œuf ce qui eût été sans cela, qui sait, acceptable, convenable ou même désirable. Car vous devez savoir ce que vous ne saviez jusqu'à m'entendre. Les morts ont tous la même peau. Et c'est indubitable, et c'est la grande, belle, douce, éclatante revanche des parias, des bannis, des honnis, les cadavres advenus oublient leur carnation. Leur seul futur est le pourrissement dans sa lenteur si trouble et parfumée, que nous nous détournons d'eux, que trop, plus que cela, ne veulent croire en ce commun destin, se pensent élus dont on ne sait quelle chimère, en sont les monstres très humains. Mais nous-mêmes ne sommes tant souillures, mais nous-mêmes, pour nous purifier, devons nous défaire du mal. Il est lieu de se dire, et on tuera tous les affreux. Ça fera du ménage, un putain de ménage, du large salutaire. Plus de moches, plus de pourris, de salopards. Faudra s'y habituer. Pas facile au début, sans doute. Faudra se défaire du soupçon. Retrouver la naïveté originelle. Mais c'est pas pour demain. C'est un sacré chantier. Et puis, quand ce sera fait, qu'on les aura tués tous ces affreux, on le sera bien un peu aussi affreux. Ah, les belles âmes qui nous insufflent ce 11e commandement. Tuer tous les affreux. Elles se rendent pas compte. C'était pour, en termes de publication, sur Internet, la revue Lichen à la sortie. Voilà.
Ben merci beaucoup. On l'aura compris, dans le corps du texte, vous citez les titres de Boris Vian, alias Vernon Sullivan. Donc vous avez un petit peu expliqué, mais comment, un peu plus en profondeur, vient un texte comme celui-là? Est-ce qu'il y a des mots, des phrases, une idée qu'on développe, un fil qu'on tire ou quelque chose qui obsède et qui mène à ça?
Alors, ce qui est vrai, c'est que chaque fois que je me pose en série, que ce soit une série recueil ou là, une série même de quatre regards, de quatre textes, je mets en place un principe d'écriture, bon, plus ou moins en termes d'idées ou en termes techniques, etc. Là, le principe était déjà d'avoir lu les livres. Sinon, bon. Donc, d'avoir un sentiment, une idée, une réflexion par rapport au livre. De saisir les titres comme élément conclusif et de relance de la courte série. Et systématiquement, en espérant ne pas être un personnage trop creux, eh bien de me laisser aller. Ce qui me permet aussi, que ce soit sur ces textes ou sur d'autres, de les reprendre en me les disant à voix haute, de façon à entendre comment ça sonne, comment ça parle, que ce soit en termes de développement de discours ou en termes de son, pour moi en tous les cas, ça colle. Globalement c'est ça, si je me remettais avec le même principe d'écriture actuellement, de prétendre refaire le même texte en quatre parties, ça serait complètement différent, puisqu'il y a un principe de lâcher prise.
Alors si j'ai commencé par Boris Vian, c'est pour introduire ce vent de liberté, la pataphysique et le mouvement dada. Vous avez, je pense, cette sorte d'esprit caustique, quelque chose de l'anticonformisme, un brin d'insolence. Est-ce que c'est un parti pris revendiqué de votre part ?
Alors, le parti pris n'est pas revendiqué, parce que même si, bon, par ailleurs, je peux me prétendre intellectuel, mais en poésie, je me prétends quand même relativement inculte. Pour autant, ce n'est pas la première fois qu'on me ramène Dada. Il est venu il y a quelques années, c'était dans une discussion avec Bruno Msika des éditions Carder, qui trouvait que Dada passait par là. Ou moi était à Dada, je ne sais pas. Voilà. Bon, voilà, voilà. Mais en tous les cas, ça n'est pas la première fois. Ça n'est pas revendiqué en principe intellectuel, mais cette forme d'écriture qui navigue entre le jeu et la réflexion, elle est très souvent là. Elle est vraiment très souvent là.
Alors, vous parliez de Carder, justement. On va parler de ce livre paru aux éditions Carder en 2014, intitulé « Petits poèmes diversement appréciables, mais néanmoins écrits ». Avec grande attention. Alors, il s'agit d'une suite de 40 textes courts, poétiques, en prose. Ces poèmes ont été écrits en correspondance avec 36 pièces d'Éric Satie. Chacun de ces textes possède un titre et une référence à une pièce d'Éric Satie correspondante. Il s'articule en deux parties, petit poème, qui comprend 25 textes, et suite au petit poème, qui regroupe 15 textes supplémentaires. Il faut ajouter qu'un CD a été enregistré pour accompagner ce livre. 9 poèmes ont été sélectionnés, ainsi que les 9 pièces pour piano d'Éric Satie, qui ont été travaillées par une pianiste, puis enregistrées en juillet 2013 avec les textes lus par vous, Olivier.
Oui, et en sachant que l'enregistrement des pièces par piano et l'enregistrement des voix était fait de manière tout à fait classique, normale, mais constitue un matériau que l'on a donné à un compositeur sur ordinateur. Donc il a repris ça comme matériau, on lui a demandé de chambouler le mieux possible, le plus possible tout ça, pour en faire des créations nouvelles. Voilà. Et ça a donné ces 9 qui sont sur ce CD. Alors les voix sont soit la mienne, soit celle de Bruno Msika. La pianiste était Françoise Dragon, et le compositeur sur ordi, Thierry Goulois, dit Kitchen Toto.
Votre éditeur dit ceci, on est dans le ton de l'atmosphère satienne, les textes sont espiègles, mais plutôt soignés, coquets, presque précieux, à l'image d'un humour très contenu. Chaque mot semble avoir été longuement pesé avant d'être posé, l'esthétique est de rigueur. Outre les impressions et images du passé, certains textes donnent jour à des interrogations, des questions qui mettent en alerte, des projections qui fleurent bon la liberté imaginative, mais aussi de l'introspection. Un regard sur soi, grave ou amusé, qui ne laisse que très rarement transpirer l'inquiétude. Eh bien, nous allons donc écouter un extrait de ces petits poèmes, diversement appréciables. Alors, je vous laisse choisir, Olivier. Que avez-vous envie de partager avec les auditeurs ?
Le choix risque d'être de hasard à l'ouverture du livre. Alors, écrit relativement à la troisième gymnopédie, dite lent et grave, le texte s'intitulant « De grave permission numéro 2 », ce qui sous-entend, si on va à la page précédente, que nous avions « De grave permission numéro 1 ».«
De grave permission numéro 2 ». Alentour des organes, il a prévu la déglutition. À moi d'en dire le moment et la force. Quand ralentit l'écho des semailles profanes, je suis un homme nu, un homme au ressentiment détenu par l'oracle. Un homme de faible foi, un homme aux pleurs discrets, certain.
Eric Satie était un compositeur dit inclassable, parfois rangé aux côtés des dadaïstes, on y revient, après avoir évoqué Boris Vian tout à l'heure. Roland de Candé, historien, musicologue, dans son nouveau dictionnaire de la musique, déclare « Eric Satie vécut emmitouflé dans son ironie ». Est-ce que ce ne serait pas un petit peu votre situation à vous aussi, Olivier Bastide, emmitouflé dans votre ironie ?
Mon ironie me pose régulièrement des problèmes. Certains, immédiatement, ne partagent pas cet humour relativement à une gravité environnementale nécessaire. Authentiquement, je crois que je vais naviguer entre un grand sérieux, des colères, de l'ironie. L'ironie, c'est... qu'est-ce que c'est ? Une espèce d'humour intellectuel, voilà. C'est pas l'humour potache, c'est autre chose. Bon. L'ironie, c'est quelque chose d'essentiel. Ça permet d'être en regard, ça permet d'être en critique de tout, de soi-même. Quand on est en position d'ironie, la première qui se pose, elle est envers soi, elle n'est pas envers les autres.
Olivier, je vous cite, « Nous sommes part de la désolation et c'est curieux. Je me souviens des rires d'enfance, de peur qui me tenait au ventre. Je me souviens de ma rougeole, du premier décès familial. C'est tout près. » Cela n'existe plus. Il faudrait se nourrir d'un sable qui pétrifie, qui assèche toute tendance à l'épanchement. De la salle d'accouchement au cercueil, nous serions pris d'ataraxie, dans le tranquille oubli de soi. Être ceci près, près de la maison. Et ça, c'est un extrait que j'ai pris dans La figure de l'élan, paru aux éditions Alcyone. Alors, vous l'avez dit, il y a de la gravité chez vous, là. On en fait l'expérience. Un aveu à la fois grave, amusé, qui témoigne de la façon dont un homme peut être un écorché vif tout en se soignant. Et vous écrivez le mot « ataraxie », cette tranquillité, l'impassibilité d'une âme devenue maîtresse d'elle-même au prix de la sagesse acquise. Alors, penchez-vous du côté des stoïciens, ou bien des épicuriens, ou bien encore des sceptiques, c'est-à-dire du côté de la modération dans la recherche des plaisirs, ou bien dans l'appréciation exacte de la valeur des choses, soit encore dans la suspension du jugement.
Donc la réponse va être globale. Sinon, on va rentrer dans une émission pour spécialistes en philosophie antique, ce qui va être un peu déplacé, il faut bien l'avouer, quoi, qui nécessiterait que j'aille réviser un petit peu tout ça. Bon, ce qui est très, 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 très vrai, très vrai. Et si on en revient à des mots simples, c'est que, ce texte, par exemple, c'est un texte où, les quelques fois où j'ai été amené à le lire, il a fallu que je me maîtrise énormément pour ne pas laisser partir des larmes. Ça, c'est très vrai. Oui, j'aime les plaisirs, mais les plaisirs maîtrisés, tranquilles. Pas les plaisirs exubérants. Savoir trouver du plaisir à regarder un brin d'herbe. J'aimerais être tranquille. Je fais semblant de l'être. Je ne le suis pas du tout. C'est la manière de tenir droit sans s'effondrer, c'est tout. Hein, voilà. De toute façon, puisqu'on parlait tout à l'heure d'une question sur la poésie, le premier des critères pour qu'une poésie soit valable, quel qu'en soit le genre au final, c'est une extrême honnêteté. Une extrême honnêteté, c'est vraiment aller prendre ce qui est dans soi, le mêler avec ce qui est autour de soi, pour en faire quelque chose. Et quand on va dans cette extrême honnêteté à l'intérieur de soi, il est presque impossible de ne pas toucher des cordes très sensibles. Mais en même temps, on n'est pas là pour s'épancher, donc obligatoirement se tenir. Et donc on peut rencontrer des attitudes de quantité de ces philosophes, pas pour les théoriser.
Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ce recueil, La figure et l'élan. Qu'est-ce qui a donné l'élan de l'écriture, justement, et quelle figure aviez-vous en tête?
Si je reprends le titre en soi, et si je le décortique, parce qu'il s'est fabriqué en étant des morceaux et en étant décortiqué, donc je peux en parler, c'était assez vrai. La figure, c'est ce que l'on est, ce que l'on peut sembler être, c'est un moment donné, quasiment une posture, quoi. Mais si on en reste là, on meurt. Il faut qu'il y ait des mouvements, des avancées, des élans. Bon, après, là, c'était circonstanciel. Il y a trois ensembles là-dedans. Il y en a un qui était déjà à peu près écrit, un qui s'est mis à être écrit, le dernier qui a permis l'élan. Je me suis rendu compte en écrivant tout ça, qui était grosso modo sur la même saison, qu'il y avait par derrière une maladie dite cancer chez un proche, mon beau-père dans ce cas-là. Et le premier, si je retrouve la chose, néanmoins, pas néanmoins funèbre, mais travaux d'approche, vous voyez, travaux d'approche, si on y va, on est presque là. On va installer la figure. Néanmoins funèbre, ben on se rend compte que, ouais, tout ça c'est bien funèbre. Et l'élan, eh bien parce que à Torre del Lago Puccini, sur la côte toscane, eh bien, il y avait des vacances, il y avait un renouveau, il y avait comme une magnifique bulle de partage et de vie. Et donc, voilà.
Alors, on a parlé de Boris Vian, d'Éric Satie. On va parler maintenant peut-être d'un Dante Alighieri, ou le contraire de Dante Alighieri, et je m'explique. Vous avez fait paraître sur le site Terraciel, site de poésie que j'encourage les auditeurs à visiter, vous avez fait paraître, dis-je, un enfer purgatoire paradis que j'ai retrouvé, repris, à la fin de votre dernier ouvrage paru aux éditions Tarmac. Et là, j'invite aussi les auditeurs à aller visiter le site des éditions Tarmac. Jean-Claude Goiry mène ça de très belle façon, avec là aussi des idéaux et des éthiques. Donc, aux éditions Tarmac, ce recueil, ponctuation forcenée de l'ordre des choses. Dans ce recueil, on comprend que vous êtes d'accord avec Shakespeare, pour qui le monde est un théâtre, et que vous constatez non pas la divine comédie, mais l'humaine comédie, ici, sur Terre, où vous placez tout en même temps enfer, purgatoire et paradis. Alors j'aimerais bien que vous nous lisiez cet extrait.
Alors cet enfer, purgatoire et paradis, inclus dans ponctuation forcenée de l'ordre des choses, et le dernier ensemble d'une série recueillie là-dedans. Recueillie parce que c'était dispersé au fil des années, et en train de se perdre. Et je me suis rendu compte que cet ensemble de micro-recueils qui se perdaient, j'avais pas tellement envie que ça se perde, et que finalement, cela ponctuait effectivement ma vie, ces choses-là. Alors ce dernier pourquoi? Ce dernier, c'était autour d'une thématique sur Dante et la Divine Comédie, lors d'une caravane poétique du Scriptorium, en plein Vaucluse, dans les collines vauclusiennes. Bien. Alors moi, je me suis dit que Dante, bien, c'était l'enfer, c'était le purgatoire, c'était le paradis, Et pour finir, enfer, purgatoire, paradis. Donc quatre textes là-dedans. Je vais reprendre le dernier, autant reprendre la synthèse. Hein. Et qui était sur la prise de parole authentique, la fin, et qui est dans ce recueil, la fin. Enfer, purgatoire, paradis. Mesdames et messieurs, le sujet est bien trop sacré pour être effleuré à l'aveuglette. Il est bien trop sérieux, bien trop pétri de vices et de vertus, de pleurs, de rires, de bonheurs et de pertes, pour entrer tout entier dans mon malheureux poème. Et pourtant. Pourtant je m'y attelle, je m'y coltine, je m'y colle en fou furieux, en exalté, en innocent, en condamné vivant ses troubles et ses cris, ne sachant distinguer strictement la flambée, la purge et le petit bonheur. De fait, point n'est besoin du dernier souffle, de l'entrée en cadavre et pur esprit, de part et d'autre séparés, pour clamer tous les mots mâchés de peur, de joie, de haine, saignés de pleine vie, mille morts, mille vies. Mesdames et messieurs, le sujet n'est-il plutôt bien trop profane pour l'expurger post-mortem? Ces derniers mots ne sont en rien une interrogation, plus un constat de fin de poème, une lecture quelque peu distancée de notre humaine comédie.
Alors pour continuer un petit peu avec cette ponctuation forcenée de l'ordre des choses, le 4 de couverture que vous signez, Olivier, dit « Ponctuation forcenée de l'ordre des choses, c'est la nécessité d'ordonner le désordre, trouver dans le hasard une logique, dans la poésie une philosophie ou vice-versa. Ponctuation forcenée de l'ordre des choses, c'est quand je me relis les retrouvailles avec les larmes que je n'ai pas versées. » Cette dernière phrase, je la trouve vraiment très forte. Et peut-on donc vous demander pour quelles raisons ces larmes n'ont pas été versées? Pourquoi elles ont été retenues?
Pourquoi elles ont été retenues? Bien parce que, premièrement, les larmes, ça mouille. Après, il faut les essuyer, c'est ennuyeux. Ça fait couler le nez. C'est, comment dire, ennuyeux, oui. Un peu sale, non? Au final. Bon. Il se dit dans des réflexions très hétérosexuées, très genrées, comme on dit aujourd'hui, qu'un homme doit savoir pleurer. Rassurez-vous, je sais pleurer. Bon, voilà. Mais bon, c'est curieux. Ça, c'est vrai. Je me suis rendu compte que, prenant de l'âge, prenant un certain âge, et peut-être en ayant vécu certains troubles de vie, comme tout un chacun, je pleure plus facilement qu'avant. Alors, pas forcément sur des peines, non. Pas toujours sur des peines. Mais aussi sur des sentiments qu'amènent des œuvres. Sur les sentiments qu'amènent des œuvres. Tiens, la dernière fois, c'est sur la fin du film Emilia Pérez, lorsqu'arrive la bande reprenant les passantes de Brassens. Avec tout ce moment-là, le film était particulièrement fort. Et ça arrive sur la fin, là, comme une surprise douce. C'est en soi magnifique. Bon, si ça ne l'était pas, ça m'aurait moins touché. Et ça reprend quantité de sentiments du film. Et oui, je suis aujourd'hui capable de pleurer comme on le faisait au 18e, pleurer d'un ressenti esthétique, d'un sentiment amené.
Il y a une constante dans cette émission, Olivier, qui est de demander à mon invité de choisir une chanson, un morceau de musique, quelque chose qu'il veut faire découvrir aux auditeurs peut-être, quelque chose qui vous accompagne. Alors quel serait votre choix et pourquoi ?
Alors ça ne va pas être quelque chose qui m'accompagne parce que je vais mal réfléchir, ça va être quelque chose qui va me revenir en tête maintenant. Pas forcément le mieux du mieux, mais quelque chose que je trouve très bien. Voilà, on va le prendre comme ça. Tout ça parce que, pour être clair, je vais repartir en congé en Sicile. Et je discutais avec ma femme il y a peu. Je lui disais, on parlait de Taormina, ce qui est assez commun. Ça fait partie des très beaux lieux de Sicile. Et je lui disais, tiens, on va réécouter Taormina de Jean-Louis Murat. Voilà. Eh bien, on ne va quand même pas prendre Taormina de Jean-Louis Murat, mais on va prendre Jean-Louis Murat. Il y a, dans ces dernières années, un titre qui s'intitule « Vendre les prés ». Et un clip qui va avec. Alors à la radio, le clip passe mal, il faut en parler du clip. Dans ce clip, on voit des images à la Depardon, des images de paysans, de lieux, absolument authentiques, tous saisis de front, avec cette idée de vendre les prés, parce qu'on ne peut pas faire autrement. À la manière de Jean-Louis Murat, je trouve ça admirable.
Eh bien donc, on va entendre « Vendre les prés » de Jean-Louis Murat.
Les yeux semblent traquer, comment nourrir les bouches, les filles maillées et le linge brodé. V'là les automobiles jusque sous nos fenêtres. Dieu veuille m'excuser, la lumière est mourante. Il faut vendre la terre, il faut vendre les prés. Il faut passer le bois, grand-mère tient la maison. Pour quelques cutéreux, sans plus d'éducation. Qu'elle travaille de nuit, foutu dans un dancing, de l'eau jusqu'aux chevilles, tout nous tient désolé. Il faut vendre la terre, il faut vendre le prêt. Enfant d'histoire d'amour, enfant de la liqueur, la bruyère inconnue va de ce petit feu. Nous avons tant d'ennuis, ne blâmez pas le père. Voilà le temps de vivre par les choses éphémères. Il faut vendre la terre, il faut vendre les prés. Du fond de mon sommeil, j'ai vu venir la flèche. Nos vaches sous la pluie prudemment descendaient, se mis dans le pétrin à faire ce qu'on leur dit. Les cœurs brûlants de fièvre, misère au nom de Dieu. Il faut vendre la terre, il faut vendre les prêts. Voilà monde moderne et son cul plein de boue, accusant la montagne d'être obstacle à la joie. Qui nous toise à travers ce devenir sombre, en tombée de la nuit, tiens nous v'là livre mort. Il faut vendre la terre, il faut vendre le droit. Comme la lumière est grise, nous traversons les prés, quand récités par cœur et souvenirs des lieux, reste de vie stagnant, comme reste une eau morte.
Premier bouquet,
misère au nom de Dieu. Il faut vendre la terre, il faut vendre les prêts.
Vous venez d'entendre Jean-Louis Murat chanter « Vendre les prés » et c'était le choix de mon invité, le poète Olivier Bastide. Nous allons reprendre notre entretien et je vous rappelle que vous écoutez « Les mots d'azur » ou « La poésie en direct ». Il y a un titre que j'aime beaucoup. Vous avez quand même l'art des titres, Olivier. Il y en a un là. Je ne vous dis que ça.
Oui, alors justement, juste pour couper, parce qu'il faut savoir couper. Je suis un coupeur de paroles invétérées. Parfois, je m'en veux après, mais bon. Les titres. Pourquoi les titres? Parce que je suis un flemmard. Comme je suis un flemmard, en règle générale, mes écrits sont brefs. Donc, puisque mes écrits sont brefs, mes titres se doivent être percutants.
Oui, c'est une raison. Donc, je ne vous dis que ça. Un petit livre de 40 pages, très enlevé, entre humour et constat sur l'humanité, publié chez Gros Texte en 2023.
Décembre 2023, c'est le tout dernier, c'est lui le tout dernier.
Un livre dans lequel, et je vous cite, « Vous trouverez la vie, l'âme et ses défaillances, l'homme, ses grandeurs et ses recoins, le peuple, ses tripes et sa poésie, sa gouaille inestimable, dans mes divagations. » C'est une véritable invitation à vous suivre dans vos réflexions, Olivier. Et je me dis, au bout de ça, que peut-être écrire pour vous, c'est une adresse, un espoir et un partage.
Écrire, c'est devenu obligatoirement un partage. Écrire pour soi-même, ça n'a pas grand intérêt. J'ai suffisamment écrit pour moi-même pendant des années pour dire que ça n'a aucun intérêt, au bout du compte. Bon, même pendant ces années-là, je devais me dire qu'obligatoirement, un jour, j'arriverai à dépasser la timidité qu'il y avait à ce moment-là, à montrer ces choses-là. Voilà. Oui, ce « Je ne vous dis que ça », c'est quelque chose qui a été écrit sur des années. Pendant très longtemps, je me suis dit qu'un jour, j'écrirais à partir d'expressions populaires. Pendant très longtemps, je ne l'ai pas fait. Et quand je me suis mis à le faire, ça a pris des années. Autrement dit, je faisais un texte de temps en temps, en faisant attention à ne pas perdre l'esprit d'écriture. Ce qui fait qu'il y a malgré tout, je l'espère, une cohérence du début à la fin dans la façon dont ces textes tiennent ou ne tiennent pas. Mais en tous les cas, je dirais qu'ils sont cohérents les uns par rapport aux autres. Je pense que c'est quelque chose dont l'écriture a démarré aux alentours de 2015, dont l'écriture s'est achevée à peu près en 2022-2023, puisque de toute façon, j'ai fini par rajouter cette quatrième de couverture qui est complètement en lien avec ce qui est écrit avant, sur le même ton. Donc oui, c'est une écriture qui va de 2015 à 2023. Pour une quarantaine de micro-textes, c'est vraiment une entreprise de feignant. C'est incroyable. Bon, d'autres choses ont un petit peu été publiées dans l'intervalle. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça n'est pas que de la fainéantise. Mais je devais avoir besoin de laisser du temps entre.
J'aimerais que vous nous lisiez ce texte que j'ai ici reproduit en italique. Olivier, s'il vous plaît.
Ouvrage déposé dans l'angle. Il semble que l'angle symbolise très précisément notre situation. Je m'explique. En premier lieu, il se considère dans deux sens, celui de son ouverture ou de sa fermeture. En second lieu, il est le point précis de la rencontre et l'indice de la divergence des lignes supposées. À la recherche de la base et du sommet, le poète avait déjà dit le caractère crucial de la géométrie. J'en suis le simple disciple, un ouvrier des mots et du constat.
Ce poète auquel vous faites allusion, l'auteur de La base et du sommet, c'est René Char. Et j'aimerais que vous nous disiez comment vous vous sentez proche de ce grand poète, et vous dites même disciple. Comment vous a-t-il marqué? Comment vous a-t-il formé? Est-ce que le goût pour la forme aphoristique vient plus ou moins de lui? Ou alors c'est son goût pour la lucidité? Qu'est-ce que vous avez désiré garder dans son exemple?
Alors, René Char, c'est le premier poète qui m'est absolument marqué. J'étais adolescent, je voulais lire de la poésie, je voulais aimer la poésie, je voulais en écrire. Dans tout ça, René Char, c'était celui qui m'empêchait d'écrire. Alors, il m'empêchait d'écrire parce que quand je lisais quelque chose René Char, quand il disait quelque chose, c'était tellement définitif, c'était tellement à ma lecture en tous les cas, à la lecture de beaucoup d'autres. C'était tellement parfait, tellement ça, que se confronter à ça, c'était impossible. Bien. Ce qui fait que parfois j'en laissais tomber la lecture, je le mettais loin, hein, de manière à ne pas m'empêcher d'écrire. Bon, alors ce sentiment-là est dépassé aujourd'hui. Je pourrais dire l'icône, mais ce n'est pas ça. C'est l'immensité. L'immensité que peut représenter quelqu'un comme René Char. Déjà un poète qui n'a pas une tête de poète, c'est très bien. Un poète qui a su dire maintenant, on n'écrit pas, on agit, parce que c'est nécessaire, c'est très bien. Un poète qui sait regarder la nature sans effeuiller la marguerite, c'est très bien. Bon, etc., etc. Dans la bibliothèque, il est en forme de Bible, puisqu'il y a l'exemplaire de la Pléiade. Bon, je ne l'ouvre pas tous les jours, je passe des mois sans l'ouvrir, même peut-être des années. Pour autant, oui, Béatrice a raison, la lucidité, l'aphorisme, ne pas s'étendre, ne pas dire les choses telles qu'on les dirait simplement, mais pour autant partir de choses concrètes. Ne pas chercher à être entendu immédiatement, s'en ficher comme d'une guigne, mais dire les choses comme ça, parce qu'il a envie, parce qu'on a envie à un moment donné de les dire comme ça. C'est toutes ces choses-là qui me plaisent absolument chez lui, qui me transportent, me transcendent quand j'en lis. Dans mes premiers écrits, j'étais peut-être un peu proche de ce genre de choses, comme tout un admirateur forcené. Aujourd'hui, en soi, je pense que dans l'écriture strictement, je n'en suis pas proche. On me ramène plutôt du dada. Alors bon, dans ce qu'est, d'une certaine manière, en petit chez moi, hein, sans plus de prétention, mais une posture dans la vie, relativement à l'écriture, relativement à l'existence des choses, les capacités de colère, tout ça, c'est très proche, c'est fondateur. Il y a d'autres poètes que je peux aimer, mais il n'y en a pas un que je considérerais comme un totem. Il n'y a que lui.
Olivier, je vais encore une fois vous citer. En bref, là-bas, il y a toi. Toi que je ne suis pas, qui pense peut-être qu'ici, il y a moi. C'est une question sans douleur aucune. Cela posé précise une certaine conscience des choses, une lucidité bienvenue mais non indispensable. Parfois je choisis le repos, je reste pelotonné dans l'angle obtus et j'y suis bien. Ça ne dure pas, je pourrais mourir. Dans ce petit passage, je me suis demandé si vous ne décriviez pas votre rapport à l'altérité, mais plus encore votre rapport à votre lecture. Est-ce que c'est une remarque qui vous paraît pertinente ?
Oui, pas spécialement à la lecture d'un texte, à la lecture des choses en règle générale. Il y a des moments où, il n'y en a pas assez d'ailleurs, des moments où on arrive à se poser et à considérer la vie, les choses, les moments. Je ne sais pas si la vie à ce moment-là a besoin d'être tranquille, mais en tous les cas, la capacité à un certain moment d'être dans une telle tranquillité que le regard le plus lucide puisse se poser. Je considère que c'est quelque chose de rare et ça rejoint ce qui était évoqué tout à l'heure, ce regret de non-ataraxie finalement. J'aspire à la tranquillité, je crois que je fais semblant de l'être et ne le suis vraiment jamais, et même cette tranquillité j'ai tendance à la casser. Donc bon.
Nous allons maintenant vous écouter lire des extraits publiés dans une anthologie intitulée Palestine. Palestine au pluriel avec un S.
C'est amusant, il y avait déjà la guerre dans ces secteurs de Palestine et de tout ça, on n'en sort pas. Palestine au pluriel, appel à texte là-dessus. Bien. À cette occasion, j'avais écrit L'arbre de Judée et où coule le Jourdain. Voilà. Je vais dire un petit peu des deux, sinon ça serait trop long. L'arbre de Judée. Soupçonnons l'ordre qui présida à son baptême. soupçonnons l'influence des origines, la parenté de l'homme avec Dieu, le souffle bienheureux des pierres. Chaque printemps octroie l'insoumission. C'est un don précieux qui absout le prêcheur. Arbre, sans importance, qui surprend à l'angle d'un muret, retour vers mes jeunes pas. Soupçonnons l'intransigeance de l'aubier. J'oublie le sel aux commissures, l'âcre senteur des meurtres. Je passe outre l'espérance. Devant moi, un arbre de Judée. À l'ombre d'un arbre de Judée, lui, était toujours avec des petits bouts, comme ça. Je vais en lire juste quelques-uns. Comprendre l'un et le tout en alliance, et cheminer jusqu'au soir, au bel oracle, avant la nuit. L'arbre de Judée fleurit chaque printemps. Il accomplit à sa façon l'œuvre commune. Il dit cependant l'injure faite. Et si je vais vers le texte non en fragments, en texte un peu plus long, Palestine, l'effacement, la perte et l'émiettement. À chaque début de poème, je m'interroge, plus ou moins consciemment, sur la nature de la poésie, sur sa faculté à dire, sur la nécessité de pratiquer l'ellipse, la métaphore, l'écart avec la réalité, afin de la surprendre plus sûrement, sur le risque d'égarement. Je ne suis pas un poète du mur qui est mur, de la plaie qui est plaie, du rire ou du crime qui sont ce qu'ils sont. Ainsi, quand écrire sur la Palestine m'est une invitation, il me revient ma propre envie, qui s'était saisie par hasard de l'arbre de Judée comme métaphore conjointe de la nostalgie de l'enfance et du drame palestinien, il y a quelques années. Je me place alors à l'ombre du premier poème, conforté par les mots de Mahmoud Darwish évoquant la Palestine comme métaphore, et j'écris un second poème. Dans chacun des mots du premier et du second poème, la sueur, le sable, la poussière, les hurlements, les murs et leurs lamentations, et malgré tous les rires, l'enfance et la vieillesse. Les pierres que l'on lance contre l'occupant, celles que l'on reçoit, Dieu et ses deux portraits, la fragmentation des soleils, des chairs, des vies, des disparitions, les songes émiettés comme milliards d'atomes déchus de leur destin, les haines qui étouffent. Et ça finissait avec « La Palestine est arbre de Judée. Elle l'est par la beauté de son printemps. Elle l'est par l'apparente fragilité de ses branches. Elle l'est par sa persistance, sa vie inextinguible. Elle l'est par l'antique Judée. Et cela suffit à tous mes rêves, à toutes mes colères, à toutes mes indignations, à l'évocation de tous ses quotidiens, de son enfer, à l'espérance nécessaire aux deux regards fraternisés. »
Et on souligne bien la chute, les deux regards fraternisés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail de photographie que vous avez réalisé, les expos ?
Alors, ce travail de photographie, il a le même âge que le travail de poésie. Pour moi, la photographie a la particularité de d'économiquement coûter plus cher que poser quelques mots quelque part. Voilà. Ma photographie est essentiellement vide de personnes. Elle construit un monde. Chaque photographie doit être un monde. Enfin, en tous les cas, je le veux. Il y a des angles, il y a des lignes, il y a des matières, il y a des lumières. Et même si, bien sûr, il y a de la couleur, il y a surtout du noir et blanc, je me complais dans le noir et blanc. Parce que le noir et blanc, c'est une évidente abstraction. De la même façon qu'en poésie, comme je viens de le dire juste avant, « Je ne suis pas un poète du mur qui est mur », etc. En photographie, c'est pareil. Photographier pour montrer strictement ce qui est là, ça n'a pas grand intérêt pour moi. Et donc, j'ai besoin de passer dans une forme qui rend abstraite la réalité. Le noir et blanc, c'est déjà ça. Et puis après, par les traitements nécessaires, ça va encore plus loin. Voilà. Pour autant, dans l'extrême majorité des cas, on voit très bien quel est le sujet de départ. Je suis rarement quelqu'un qui fait de l'abstrait, absolument abstrait. Je suis quelqu'un en photographie qui va considérer que réalité et abstraction se montrent en même temps. Finalement, c'est précisément la même chose dans mon écriture.
Très bien, merci pour ces précisions. Vous avez cité tout à l'heure le Scriptorium. Donc, c'est un collectif de poètes dont vous faites partie et qui se retrouve à Marseille et ailleurs, animé par le poète Dominique Sorante. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler de cette expérience au sein du Scriptorium ?
Alors déjà, la ponctuation forcenée de l'ordre des choses reprend, pas absolument, mais pour beaucoup, un ensemble de textes écrits à l'occasion de ces moments du Scriptorium. Alors ces moments, ça peut être ce que l'on va appeler des caravanes poétiques ou d'autres types de rencontres. C'est souvent avec un public, mais parfois on peut être simplement ensemble pour partager des textes ou des réflexions dessus, mais ça reste souvent avec un public. Effectivement, c'est ancré sur Marseille, Dominique Sorante aime à dire ancré au Vallon des Offes, c'est encore plus précis. Dernièrement, nous étions dans le festival Traces de Poètes le week-end dernier, Traces de Poètes à Lille-sur-Sorgue. Il y a dedans des poètes, oui, mais pas seulement. Alors des poètes, des amateurs de poésie, il peut y en avoir d'autres, il y en a qui font, d'autres qui ne font pas, en tous les cas, tout un collectif qui aime à partager. Ce n'est pas un collectif de gens qui seraient dans une école d'écriture. Hein. Non, non, non. Ce qui les réunit, c'est effectivement ce souci du partage, une sorte de convivialité poétique. Actuellement, le nombre d'adhérents, puisque c'est une association, la plupart poètes, mais pas tous, et au-delà de la trentaine, donc je ne vais pas tous les citer, je vais en oublier, le fondateur, celui que j'aime à appeler le grand timonier. Non sans ironie, mais avec une certaine vérité. Une ironie qui ne s'appuie pas sur une vérité, ça ne vaut rien. Dans le sens où il a eu cette idée, il l'a créée, Dominique arrive à susciter régulièrement l'intérêt des uns des autres, et ça permet des rencontres, un partage.
Là, je crois qu'on arrive au terme de l'émission. Donc, on va parler de vos projets futurs, des livres en préparation, des expos.
J'ai une expo photographique, donc une expo photo qui est la reprise d'une exposition qui a existé à Pistoia, donc en Toscane, qui a existé à Orange, à la librairie L'Orange Bleu, et qui donc devrait se tenir à Sainte-Cécile-les-Vignes en courant de printemps prochain, qui s'intitule « Lieu et moment ». Bon. D'un autre côté, là aussi, un ensemble qui aurait dû être publié en 2024. L'éditeur a commencé un moment à être malade. Et donc, avec ce même ensemble intitulé « Le poème est une peinture qui ne se voit pas », où tous les textes sont un écho à des images, à des photographies, à des peintures authentiques. C'est autre chose que ce qui est, par exemple, dans « Je ne vous dis que ça », etc. C'est une autre manière d'envisager l'écriture poétique. Ça ira, normalement, aux éditions Tarmac, mais pas en 2025. C'est pas trop tard, 2026. Non, 2026, ça va très bien. Avec la difficulté qu'il y a aujourd'hui à ce qu'un éditeur de poésie arrive à considérer, regarder une proposition de recueil, 2026, c'est très proche. Voilà où on en est actuellement, puis d'autres choses en cours de route, en cours d'écriture mais non finalisées. Il y a un titre que j'aime bien, Le Sacrement païen.
Bon, ben voilà, le temps imparti à l'émission est épuisé, et il me reste à vous remercier chaleureusement, Olivier, pour cet entretien. Un entretien, je pense, riche, plein d'enseignements, et que je suppose les auditeurs sauront apprécier.
Merci beaucoup, Béatrice.
C'était Les Mots d'Azur, ou La Poésie en direct, une émission produite et réalisée par Béatrice Maché. Chers auditeurs, quant à vous, je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité, une autre personnalité, une autre approche de la poésie. Et d'ici le mois prochain, portez-vous bien, au revoir, passez de bonnes fêtes. Joyeux réveillon, au pluriel, puisque 24 et 31 décembre au calendrier.